Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.
92% des salariés français considèrent que l'équilibre des temps de vie consacrés à la vie professionnelle et à la vie personnelle est un sujet important, voire très important. 70% disent même manquer de temps au quotidien. Parmi eux, beaucoup de parents. Charge mentale élevée, courses permanentes, épuisement, comment réussir à mieux concilier ? Que peuvent faire les entreprises pour accompagner leurs salariés parents ? Mon invité, Pascal Van Horn, conférencier et lui-même papa, en est convaincu. Loin d'être un sujet anecdotique, la parentalité en entreprise est aujourd'hui un enjeu majeur pour attirer et fidéliser les talents, mais aussi pour favoriser l'égalité homme-femme. Bonjour Pascal.
Bonjour Fabienne.
Comment vas-tu ?
Bah super bien, merci, et toi ?
Très bien aussi, merci. Selon un baromètre réalisé par Parents Zen, 98% des parents, autant te dire Pascal, quasiment 100%, sont impactés dans le cadre professionnel par leur vie familiale. Est-ce que concilier vie de parent et vie professionnelle, ça reste mission impossible ?
Alors mission impossible, non. Alors moi je suis un éternel optimiste et positif, donc moi je pense qu'effectivement beaucoup de choses sont possibles, mais on va pas se mentir, oui, c'est pas simple. On pourrait s'interroger sur ce chiffre en se disant « ouais, c'est pas nouveau concilier vie de famille et job ». Ce qui a changé, c'est quand même un contexte sociétal qui est complètement nouveau, qui a notamment explosé avec la pandémie il y a 4 ans. Mais effectivement, ce nouveau contexte sociétal engendre quoi ? Un nouveau rapport au travail, une nouvelle relation au travail, un nouveau rôle des parents qui se questionnent beaucoup plus. Alors ça, c'est lié notamment à l'explosion des neurosciences appliquées à l'éducation et donc effectivement un questionnement, un cheminement de son rôle parental sur le sujet. Et puis, côté entreprise, il y a quand même aussi une grosse nouveauté, c'est une guerre des talents qui est beaucoup plus forte. Et donc, n'oublions pas qu'un autre chiffre, que 80% des salariés sont des parents, et on est parents tout au long de la vie, hein, c'est pas juste à la naissance. Et donc, effectivement, c'est forcément une donnée à prendre en compte en matière d'attractivité et de rétention des talents.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui est compliqué pour les parents, selon toi ? Quels sont un petit peu les obstacles et les freins, peut-être ? Qu'est-ce qui nous complique la vie aujourd'hui ?
Ce qui complique la vie, c'est que on a envie de se, et c'est une bonne chose, mais on a envie de se réaliser dans toutes nos sphères de vie. Donc, on a envie d'être heureux, impliqué, engagé, épanoui, et dans sa vie perso, donc là, en l'occurrence, sa vie familiale, mais également dans sa vie professionnelle. Et donc là, ça peut paraître parfois des injonctions qui pourraient paraître un petit peu contradictoires. Donc, comment réussir à concilier ça? C'est pas simple. Et il y a également, effectivement, un point à prendre en compte, c'est que finalement, la parentalité en entreprise, c'est finalement un sujet assez nouveau. Et donc, une grande majorité des entreprises n'ont pas encore intégré ces nouveaux besoins des salariés. Et enfin, il y a des études qui le montrent, hein, des études récentes, qui montrent effectivement que parfois, il y a une dichotomie assez forte entre les besoins exprimés par les salariés et les solutions proposées par les entreprises. Et donc, tout l'enjeu, c'est de réussir à connecter les deux pour qu'on se retrouve sur le chemin.
Tu le disais, on a envie de faire bien au travail, on a envie de faire bien en tant que parent et ça peut créer des frustrations et des difficultés à tout gérer. Je vais te lire un extrait d'un livre qui s'appelle « Le syndrome du Wonder Parent » qui a été écrit par Anne Orimat et le sous-titre est assez explicite « Travailler comme si on n'avait pas d'enfants et élever nos enfants comme si on n'avait pas de travail ». Le livre est paru aux éditions Payot et tu vas me dire ce que tu en penses. La société a créé un mythe, celui du Wonder Parent, le parent actif qui arrive à tout concilier, le super dad ou la working mom qui réussit tout. Soyons clairs, j'en ai fait le constat auprès de milliers de parents actifs, ce sont des utopies qui n'ont pour seule réalité tangible que la pression considérable qu'elles font peser sur les épaules des parents, toujours pris en défaut dans une sphère ou dans l'autre. Comment faire dans ces conditions pour ne pas culpabiliser, ne pas courir toute la journée et ne pas s'épuiser ? Combien de parents sont éreintés et démotivés, se disputent avec leur partenaire ou finissent par quitter un job intéressant ou renoncer à une promotion pour essayer de trouver du répit ? Que faire pour se sentir bien en tant que parent d'un côté et collaborateur de l'autre ? Le mythe ne soulève pas de questions. Il projette une image idéalisée de la parentalité active. Il a produit le syndrome du Wonder Parent. Puisque les parents n'y arrivent pas, ils culpabilisent et ne se sentent pas à la hauteur, pensant qu'ils n'en font pas assez pour les enfants et professionnellement. Résultat, ils se sentent nuls au travail et ou à la maison. Pourquoi en sommes-nous collectivement arrivés là et comment sortir de cette impasse délétère au plan personnel comme sociétal ? Qu'est-ce que ça t'inspire ?
Ben, c'est très juste, c'est très juste. Ça montre effectivement ce dont on parlait juste auparavant, les injonctions paradoxales et qui génèrent finalement beaucoup de frustration, qui génèrent beaucoup de culpabilité. On va pas se mentir, cette situation idéalisée, elle n'existe pas. C'est tout simplement pas réalisable. Moi, je crois que la vie, par définition, c'est le mouvement et que la vie, bah, c'est une succession de moments et qu'effectivement, on peut pas être pleinement à sa juste place en tant que collaborateur et en même temps pleinement à sa place de parent, sans mettre en place des ajustements, des actions, que ça soit dans sa vie de parent, mais que ça soit effectivement au côté entreprise. Et là, moi, du côté entreprise, je crois beaucoup à la notion de co-responsabilité. Et donc, du coup, pour moi, il y a une double responsabilité, une co-responsabilité. Il y a la responsabilité de l'entreprise, mais il y a également la responsabilité de l'individu, de la femme, de l'homme, pour dire, pour oser s'exprimer, pour oser. Et il s'agit aussi de libérer la parole, parce qu'encore une fois, c'est un nouveau sujet, finalement, la parentalité en entreprise.
Et alors, quand on s'intéresse aux solutions, parce qu'on va essayer aussi d'en proposer, puis de partager des bonnes pratiques, d'abord à l'échelle individuelle, qu'est-ce que moi, en tant que parent, je peux essayer de faire pour mieux concilier mon quotidien? Est-ce que tu aurais des astuces à nous partager, déjà sur ce plan peut-être un peu plus personnel?
C'est effectivement déjà d'avoir une juste lecture de soi et de ses besoins. Ça demande une espèce d'introspection, puis ça demande finalement aussi un peu de courage, un peu d'audace, et effectivement d'assumer ses besoins. Et en fait, c'est pas du tout égoïste. Faire ces choix-là pour soi, c'est finalement les faire aussi pour les autres. C'est libérer, encore une fois, les chemins. C'est-à-dire que si j'agis pour moi, mais en fait, d'autres vont aussi après, au sein de l'équipe, se dire « Ah ben ok, Fabienne l'a fait, mais moi aussi je peux le faire après tout. » Donc voilà, donc c'est d'analyser ses besoins, d'oser les affirmer auprès de son manager, auprès de son RH, d'ajuster, de se dire « Ok, avant, j'avais pas d'enfant, donc ma vie, c'était ça. Si je fais une projection demain, l'enfant, il va me prendre 20% de mon temps. Ces 20%, je les prends où ?» Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, de poser les choses, de dire « Ma journée, elle fait 24 heures. » Elle en fait pas plus, hein. Donc, elle fait 24 heures. D'un seul coup, il y a un enfant, donc il y a une case en plus. Ce temps-là, dédié à mes enfants, je le prends où, le temps ? Ça ne veut pas dire que c'est pour toute la vie. Ça peut être sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Et puis après, on réajuste. Donc voilà, c'est d'avoir cette lecture sur soi, d'oser affirmer ses besoins. Et encore une fois, moi, je crois beaucoup, encore une fois, à avoir une posture positive et constructive. Et donc, du coup, de dire, d'aller voir son manager, son collaborateur. Voilà, ma situation, elle est comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Moi, j'ai déjà réfléchi à des solutions. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça fonctionne pour tout le monde?
À l'échelle collective, cette fois au niveau des ressources humaines, des entreprises, quelles bonnes pratiques sont développées? Parce qu'on a l'image des places en crèche, hein, qui sont un vrai soutien pour les parents. Mais qu'est-ce que tu vois d'autre, toi, comme solution vertueuse?
Il y en a énormément et il y en a de plus en plus. Je crois que le premier point à se poser, c'est d'analyser les besoins. Il y a des entreprises qui proposent plein d'actions et c'est canon, sauf que parfois elles le font un peu par intuition et sans prendre en compte la réalité des besoins. On ne propose pas les mêmes solutions si on a une équipe dont la moyenne d'âge est de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans. Tout simplement parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Un besoin d'un collaborateur parent qui est un jeune parent va avoir besoin de place en crèche, va avoir besoin d'extra-légal sur le congé paternité, sur les jours enfants malades, sur l'avant-grossesse également, ce qu'on appelle le parcours prénatal. Par contre, une population de salariés parents plutôt d'ados va avoir d'autres besoins en termes d'aide aux devoirs, de parcours sup, etc. Donc déjà, le premier point, c'est d'analyser les besoins, de faire ce diagnostic, de faire cette audit. Et après, effectivement, des solutions, pour moi, il y en a énormément et elles sont à prendre en compte dans tout le parcours collaborateur. C'est-à-dire à la fois au niveau de l'onboarding, déjà du recrutement, mettre en place, muscler sa marque employeur et mettre en lumière toutes les actions en termes de parentalité parce que c'est un vrai facteur d'attractivité, mais également après de les mettre au niveau de l'onboarding, puis tout le long du parcours, oser proposer des évolutions de poste, par exemple, à des femmes qui reviennent de congé maternité et pas avoir un a priori, somme toute bienveillant. La valorisation des soft skills, ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Quand on devient parent, on développe tout un tas de soft skills qui sont hyper utiles dans son cadre professionnel, l'organisation, l'anticipation, la créativité, l'empathie, etc., etc. Autre action, parce que ça ressort beaucoup. Il y a effectivement un manque d'information souvent qui est évoqué par les salariés sur les actions que proposent les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a un gros pourcentage d'entreprises qui disent « mais moi, je propose plein de choses ». Il y a 80% des entreprises qui disent « mais moi, je propose des actions ». Et du côté salarié, il y en a que 50% qui disent « mon entreprise propose quelque chose ». Donc, il y a quand même un décalage de 30 points. Et en fait, du coup, c'est aussi de créer des guides de la parentalité qui recense toutes les actions qui sont proposées. Voilà, des actions, t'as parlé des places en crèche, évidemment, la notion de rôle modèle, mettre en lumière les collaboratrices, les collaborateurs qui vivent pleinement leur vie de parents tout en vivant pleinement leur vie de carrière. Et puis, évidemment, parce qu'on parle d'un changement sociétal, ça s'accompagne, ça se sensibilise. Donc, je pense qu'il y a plein d'outils pour sensibiliser à la fois les managers, mais les collaboratrices, les collaborateurs sur le sujet. C'est des conférences, c'est des ateliers, c'est des podcasts. Il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent des podcasts en interne, comme là, on est en train de le faire. Je crois beaucoup au micro-learning. On a le concept de passer 3 heures devant un e-learning. Je pense que c'est un peu daté et qu'on peut proposer effectivement des capsules vidéo courtes. Bref, des outils, il y en a beaucoup.
Est-ce que le télétravail et la flexibilité en termes d'horaire sont également clés aujourd'hui?
Évidemment, tu as absolument raison, Fabienne. La flexibilité, c'est un point clé et c'est un des points qui est le plus demandé. Alors là aussi, il y a un gros écart dans le paysage économique français. C'est-à-dire que la flexibilité, le télétravail notamment, est extrêmement proposé par les grosses entreprises, hein, par les entreprises de plus de 1000 salariés. C'est beaucoup moins le cas dans les plus petites structures. N'oublions pas que le tissu économique français, c'est avant tout des PME et des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. C'est pas uniquement les grands groupes. On en parle souvent, mais c'est pas ça le tissu économique français. Et ces boîtes-là, elles ont un peu plus de mal à mettre en place effectivement la flexibilité des horaires. Et pourtant, clairement, aujourd'hui, c'est un des points qui est le plus demandé. Ça fait écho à ce dont tu parlais tout à l'heure, à cette notion d'équilibre vie pro, vie perso. Et effectivement, que ce soit le télétravail ou la flexibilité des horaires décalés, on en parle beaucoup, la semaine de 4 jours. Voilà, il y a tout un tas d'outils qui permettent effectivement d'apporter cette flexibilité de temps de travail qui est précieux quand tu es salarié parent.
On a commencé à l'évoquer, être parent, c'est pas seulement compliqué les premiers mois. Je vais te faire écouter un sketch de Florence Foresti et puis ça nous permettra peut-être aussi d'expliquer que ce serait bien d'aider les parents tout au long de la parentalité et pas que pour les bébés.
Motherfucker, justement, et dire que je vous ai fait chier avec ce spectacle éponyme là. Ah, dis donc, ben, l'accouchement, ça fait mal. Mais ferme ta gueule. Oh non, mais écoute, si j'avais su, mais l'accouchement, ce n'est rien. Mais l'accouchement, c'est une écharde. À côté de ce qui t'attend tous les jours. Les devoirs. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? On les a déjà fait, nous, les devoirs? Pendant 15 putains d'années, moi je les connais mes tables, hein, ça va, hein, 2 fois 2, 4, 4 fois 4, 6, c'est bon, me prenez pas la tête. Hein.
On a tous vécu ces moments au quotidien et c'est important que les entreprises justement continuent à aider les parents d'enfants au primaire et puis les parents d'ados.
Mais oui, tu parlais d'études tout à l'heure, il y a une étude qui a été publiée par The Boson Project, The Helper et 1-2-3 Kids juste avant l'été, en juin 2023. L'étude est très riche, mais il y a notamment un point relatif à ta question sur il y a une question qui est posée, à quel âge de l'enfant la routine parentale est-elle la plus difficile à gérer? Et ce qui ressort le plus, c'est plusieurs moments. Il y a le moment de la naissance, donc de la petite enfance, voilà, on en a parlé pour plein de raisons, et il y a deux autres moments qui sont clés. Il y a le moment de 6-9 ans, puis le moment de l'adolescence. Et là, évidemment, ça montre d'autres besoins. L'entrée en adolescence ou la pleine adolescence, l'aide aux devoirs, puis après, on peut même aller plus loin, le parcours sup, la logistique avec des enfants ou des ados liés à toutes les activités extrascolaires. Et c'est là où ça fait écho à la question précédente sur la flexibilité du temps de travail. Donc, effectivement, parce que le sujet de la parentalité en entreprise est somme toute plutôt récent, on le focus. Et ça s'entend, évidemment, il y a un besoin très très fort à ce moment-là sur la petite enfance, sur la naissance, mais n'oublions pas qu'on est parents tout au long de la vie et qu'encore une fois, il y a des besoins qui sont différents, qu'il y a plein de choses à proposer aux collaborateurs parents sur l'enfance ou l'adolescence et l'adolescence.
Tu as créé en 2017 le blog histoiredepapa.com pour proposer un regard de papa sur le quotidien justement de la parentalité. Est-ce que c'est important, voire indispensable, que les hommes s'emparent de ces sujets, en parlent et notamment prennent aussi le congé paternité?
Mais c'est absolument essentiel pour tellement de raisons. Alors là aussi, c'est très nouveau de parler de la paternité en entreprise. Mais oui, c'est absolument essentiel. Moi, j'ai créé effectivement l'histoire de papa parce que j'ai cette conviction que si on change le regard de la société sur les pères, ben en fait, on impacte en douceur sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Parce que on n'a pas encore posé le sujet, mais pourtant, il est clé. Quand on parle de parentalité en entreprise, on a un fil énorme à tirer sur l'égalité entre les femmes et les hommes. On le sait typiquement sur les évolutions de rémunération, mais aussi les évolutions professionnelles, où clairement, cette France Stratégie qui a sorti une étude en début d'année 2023, où on voit vraiment les courbes sont flagrantes, une augmentation de la rémunération des pères suite à la naissance de l'enfant, parce que il est perçu dans l'entreprise comme quelqu'un de plus responsable, et une chute énorme de la rémunération pour les femmes pour plein de raisons, notamment pour le temps partiel qui est pris par une femme sur deux suite à la naissance d'un enfant, par 50% des femmes. Donc effectivement, si on veut changer la donne, il faut changer le regard de la société et y compris au sein de l'entreprise sur les pères. Et donc il est absolument nécessaire d'encourager les pères à prendre leur congé paternité. Je me suis engagé, moi j'ai milité sur l'augmentation de la durée du congé paternité, où il est passé effectivement à 28 jours depuis le 1er juillet 2021. C'est pas incroyable, mais c'est déjà un pas, c'est un premier pas, hein, voilà. Mais sur ces 28 jours, il n'y a que 7 jours qui sont obligatoires, 3 jours de congé naissance et 4 jours de congé paternité. Tout l'enjeu, effectivement, des entreprises, au niveau RH ou manager, c'est d'encourager les pères, les nouveaux pères, à prendre leur congé paternité. Je ne vais pas citer l'entreprise, mais il y a des grosses entreprises françaises qui ont même comme objectif que 100% des collaborateurs papa prennent leur congé paternité. Donc, pour dire comment c'est effectivement un vrai enjeu. Pour ça, il y a plein de choses à faire. Il faut sensibiliser collaborateurs et les managers à ce congé paternité, comment il fonctionne, parce que souvent, il n'y a pas l'information. Comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il peut apporter pour le bien-être individuel, familial. Parce que c'est aussi un impact positif sur les familles, hein, sur le lien avec le bébé, sur les familles, sur le couple. On sait qu'il y a un couple sur trois qui se sépare sur la première année de l'enfant, et une présence du père a un impact positif sur le sujet par rapport à la charge mentale, évidemment. Voilà. Mais effectivement, donc il s'agit vraiment d'encourager. On sait que les hommes ont beaucoup d'autocensure. Il y a une peur du jugement qui est très présente par rapport à la prise de ce congé paternité. Là aussi, il faut sensibiliser, il faut libérer la parole. On peut créer des groupes de parole entre pairs. Je crois beaucoup aussi à la valeur de l'exemplarité. Je pense à un PDG d'une grande banque française qui a osé prendre un congé paternité de 3 mois, non pas d'un mois, de 3 mois, qui a beaucoup communiqué dessus sur LinkedIn auprès de ses équipes. Je l'ai réinterviewé un an après pour avoir les impacts. Il me dit, mais incroyable, ça a changé. Le fait que le Big Boss ose, ça a permis aux autres d'oser, aux autres papas, de dire, si lui l'a fait, moi je peux le faire.
Je vais t'emmener un petit peu dans le futur. En 2050, à ton avis, le sujet de la parentalité en entreprise, il sera comment ?
Parce que je suis positif, je veux dire que j'aurais envie que ça ne soit plus un sujet. Ça serait génial, parce qu'on aura tellement avancé que ça sera complètement intégré, et donc en fait, ça sera une évidence. 2050, c'est loin, mais c'est demain, ça va super vite. Il y a encore, mine de rien, beaucoup, beaucoup de boulot, parce que oui, on en parle, oui, il y a des entreprises qui mettent en place beaucoup d'actions, mais c'est loin d'être encore la majorité, loin de là. N'oublions pas en plus que les formes de famille sont très différentes, hein. On l'a pas évoqué là, mais les familles monoparentales, c'est une famille sur quatre. C'est souvent des femmes, c'est dans 85% des cas, ce sont des femmes qui sont à la tête de familles monoparentales. Il y a aussi des accompagnements spécifiques. Moi, ce en quoi je crois, c'est que là, aujourd'hui, on en est juste au début du chemin. J'espère que le point d'arrivée, ça sera 2050, mais là, on en est jusqu'au début du chemin. Ça veut dire quoi? Que là, on est dans une période de sensibilisation, et plus on va avancer, plus on va être fin, plus on va être précis, plus on va être juste dans les actions qu'on va proposer, plus elles seront personnalisées. Alors, il ne s'agit pas de dire, j'ai une équipe de 100 personnes, donc je propose 100 actions différentes. Évidemment pas, c'est pas ça. Mais effectivement, on se doit de prendre en compte le côté polyforme des familles, des situations, des besoins. Et donc, je pense que plus on va avancer, plus on va être juste dans nos propositions, dans nos actions, pour arriver effectivement à que finalement ça ne soit un non-sujet.
La tradition de ce podcast, c'est que je fais travailler un petit peu mes invités et chaque invité pose une question à mon invité suivant. Donc je vais te faire écouter la question de Jérémy Lamry qui était venu nous parler du courage au travail.
Comment rendre nos dirigeants courageux ?
Comment rendre nos dirigeants courageux ? Alors je pense que mine de rien, il y a quand même déjà un certain nombre de dirigeants, de dirigeantes qui sont courageux, parce que le monde aujourd'hui est en telle transformation, le contexte sociétal est en telle transformation que je pense que ça demande du courage d'être dirigeant. Et comment les rendre encore plus courageux, c'est les sensibiliser sur tous les enjeux sociétaux, parce qu'ils n'en ont pas forcément conscience tellement ils ont de choses à piloter, comment ils doivent faire face dans tous ces temps de tempête, hein, et de crise qui se superposent. Donc c'est de les sensibiliser, c'est de les encourager, c'est de pas les isoler, c'est de pas les déconnecter, c'est de faire en sorte qu'ils restent connectés à la société et aux individus. Une société, c'est une somme de femmes et d'hommes. Donc, c'est de les laisser connecter, de continuer de créer du lien. Je crois vraiment que c'est ce dont on a besoin. Et ce lien va leur permettre de mieux comprendre. Et il faut avoir aussi un peu de courage, finalement, pour aller oser se confronter aux besoins, pour aller se confronter aux besoins alors du marché de ses consommateurs, mais au marché de ses collaborateurs, au marché de ses futurs collaborateurs, collaboratrices. Donc ouais, je pense que c'est ça, c'est avoir le courage de sortir et de se connecter au maximum aux autres et à la vie, tout simplement.
Quelle question tu aurais, toi, envie de poser sur ton sujet de la parentalité au travail ?
De quoi vous auriez concrètement besoin pour réussir à mieux concilier votre vie personnelle et votre vie professionnelle et donc réussir à être épanoui dans les différentes sphères de vos vies ?
Merci beaucoup, Pascal.
Merci, Fabienne.
À très bientôt, bonne journée.
À bientôt, au revoir.
Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.